Ce podcast contient des histoires pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. La supervision des parents est suggérée.
Je vous préviens tout de suite, quand je vais raconter, ça risque de vous faire tout drôle.
Bonjour à tous! Entrez dans la Crip Zone, enlevez vos chaussures. Mettez-vous à l'aise pour votre podcast d'affaires criminelles françaises raconté par toi, Agathe.
Salut!
Et moi, Claire. Toutes les deux semaines, on vous raconte deux histoires dans l'effroi et la bonne humeur. On espère que vous êtes prêts. Cette semaine, c'est un épisode spécial Halloween. C'est parti.
C'est parti.
Ça va, Agathe?
Ça va et toi?
Ça va super, écoute, ça va... J'ai peur. Ça va peurment, j'allais dire. Bien, ça commence bien.
Effroyablement.
Oui, je suis très excitée parce que j'adore Halloween.
Ouais, moi aussi. Moi, je suis très contente de mon histoire, mais j'ai l'impression que je suis pas dans le sujet, dans le thème d'Halloween.
Mais on va foire. On va foirer,
tu veux dire.
On va foirer.
Je vais foirer.
Mais on va faire des bruitages derrière, des trucs comme ça, tu vois.
Moi je vais me donner à fond. Mais ouais. Je sais pas toi, mais c'était très compliqué pour moi parce que je crois pas trop aux fantômes, aux esprits, tout ça. Et du coup, à chaque fois j'étais là, mais non, mais bon, je vais pas prendre ça, c'est une blague. Allez, ciao, bye.
Ouais.
Mais bon, je suis très contente quand même. Mais on va y arriver.
Moi j'ai fait ma petite déco.
Mais je vois ça, c'est sublime.
Ouais, et il faut savoir que dans mon appartement, j'ai mis une petite déco dans mon studio.
Oui.
Pour cet épisode, j'ai une jolie pancarte.
Le visage immense.
Ouais, un visage immense de Ryan Gosling avec une auréole sur la tête, parce que Ryan Gosling est un dieu. Et pour le décorer, j'ai mis une petite chauve-souris sur la tête.
Tu l'as trouvée où, cette chauve-souris?
Je sais pas. Dans mon salon,
en fait. C'est à cause d'elle qu'il y a le Covid ou pas?
Non, bah, elle sourit. Non. Okay. Elle est gentille. C'est une chauve-souris, tu vois.
Ok.
Voilà. Donc, c'est pour me mettre un peu dans l'ambiance.
T'as raison. J'aurais dû faire pareil.
Ouais, voilà. On est chaud patate.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Le couvre-feu?
Qu'est-ce qui se passe? Là, mais je t'ai connue plus douée en transition, Claire.
Ouais, mais c'est quoi? Voilà, quoi.
Ouais, il y a le couvre-feu en ce moment.
On est toutes les deux touchées parce que toi t'es à Paris et moi je suis à Toulouse.
Ouais. Est-ce que t'as fait quelque chose de ton dernier sort de liberté?
Non. J'ai regardé Koh-Lanta.
Ah, tu me rassures parce que moi non plus. Moi je suis rentrée, j'ai reçu un message d'une amie qui m'a dit alors t'as fait quoi avant le couvre-feu? J'étais là, bah. Je suis rentrée du taf et j'ai regardé des vidéos sur YouTube.
Moi complètement. Alors moi le problème c'est parce qu'en fait je suis un peu con. C'est que j'avais compris que c'était samedi, genre à minuit, la nuit entre samedi et dimanche, que c'était fini. Donc moi, pour moi, vendredi soir, je l'ai passé comme tout vendredi soir, c'est-à-dire devant Koh-Lanta.
Mais est-ce que t'aurais fait quelque chose? Enfin, moi, j'ai personne à voir à Paris en ce moment, donc...
Honnêtement, non, je crois pas.
Ouais, moi j'ai rien à faire.
J'avais trop envie de voir Koh-Lanta. Et j'étais fatiguée et tout, parce que j'avais été à la soutenance de thèse d'une copine à moi toute la journée, donc en fait, j'étais dead. Donc, au final, j'aurais pas fait grand-chose, je pense.
Ouais.
Pour l'instant, ça me change pas grand-chose.
Six semaines, c'est long.
Ouais. Mmh. Ouais. Bah écoute, ça va donner encore plus de temps à nos auditeurs de nous écouter. À partir de 21h, tu sais. Au lieu...
D'aller boire des coups.
Voilà.
Écoutez donc la Crip Zone.
Exactement. En parlant d'écouter la Crip Zone, dans l'épisode dernier, on a demandé, enfin, on se demandait quelle était la différence entre les policiers et les gendarmes.
Oui.
Et du coup, j'ai fait mes petites recherches.
Ok. Et
il se trouve qu'il y a un. Bon, à part le fait qu'il y en ait qui soient militaires et d'autres non. Il y a le truc de les policiers, c'est plus dans les zones urbaines et les gendarmes dans les zones rurales. Et après, c'est une histoire de salaire et tout. Mais genre, pour les affaires criminelles, il n'y a pas forcément de... Genre, t'appelles et c'est les premiers qui arrivent, quoi.
Bah ouais, voilà, c'est ce que je pensais.
Voilà.
Mais, ok.
Donc, ça fait pas trop avancer le...
Ouais, bah, le c'est truc, toujours mais... le même truc, c'est qu'en fait, ils sont un petit peu... pareil, non?
Ouais, oui, voilà, ils ont pas...
À part leur formation, en fait.
Ouais, visiblement, il n'y a pas trop de différence, en fait, sur le travail ouais. qu'ils font. À part, ben, juste, ouais, le salaire, les horaires et, genre, le logement, quoi.
Ok. Voilà. Eh ben, merci, parce que moi, j'ai pas fait toutes ces recherches.
Oh, mais toutes ces recherches, j'ai tapé différence police-gendarmerie, j'ai pris le premier lien. Donc, à tout moment, c'est pas la... ça les différences, et je dis n'importe quoi pour une deuxième fois. Mais bon. Écoute.
Bon, pourquoi pour une deuxième fois? C'était moi qui disais la dernière fois. Non?
On dit n'importe quoi une deuxième fois.
D'accord.
Voilà.
Très voilà. bien.
Est-ce qu'on se lance, du coup, ou est-ce que...
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais,
c'est go. C'est à toi.
Ah oui, c'est à moi.
Cette
okay.
semaine.
Oh là là, j'ai la pression. Ok.
T'as la presse. Donc on fait, genre, une Alors, ambiance un petit peu...
Remettons dans le contexte. La dernière fois, on s'était dit, on est proche d'Halloween, on va faire un thème Halloween. Donc, il fallait qu'on trouve des histoires qui se rapprochaient du thème.
Oui.
Moi, j'ai cherché des histoires paranormales, des histoires de manoirs hantés, tout ça. Je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé mon bonheur. Et je suis tombée sur une histoire d'un diamant maudit.
Ouais, trop stylé. Putain.
Et du coup, j'ai décidé de faire sur ça. Donc, je vais parler du diamant Hope, le plus grand diamant bleu du monde. Un diamant qui serait frappé d'une étrange malédiction et qui a porté malheur à tous ceux qui l'ont acquis. Donc c'est assez ironique qu'il s'appelle diamant Hope, puisque Hope ça veut dire espoir en anglais. Parce que quand t'es en possession de ce diamant, t'as plus d'espoir. Mais en fait, il s'appelle Hope à cause d'un de ses propriétaires, Henry Thomas Hope, un banquier londonien, qui fit l'acquisition du diamant au 19e siècle. Mais ça, je reviendrai sur lui plus tard, parce que l'origine du diamant est bien plus ancienne.
Okay.
Donc, comme tu dois le constater, je vais te faire voyager, moi, cette semaine.
Allez.
Parce que... Pardon. C'est mon enceinte.
Ton enceinte est hantée.
Ouais, attends. Voilà. Non, pardon. Oui, je vais te faire voyager parce que... en fait, j'ai besoin de ça parce que je vais te faire écouter quelque chose. Ok. Oui, donc, ça se passe en France, mais ça se passe pas seulement en France. Donc, voilà, j'ai triché. Je sais pas si j'ai triché, mais en tout cas, voilà.
Non, mais non.
Voilà. Donc, il existe évidemment plusieurs versions à la légende du diamant Hope. J'en ai choisi une, mais je sais pas si ce que je veux dire est vrai ou faux. Comme toutes les légendes et les histoires de malédiction, il y a les faits et les fantasmes. Et je reviendrai à la fin sur ce que je pense. Et je dis ça, mais en fait, j'ai pas du tout travaillé ma conclusion, donc ce sera de l'impro. Donc, avant de commencer, je voudrais te faire écouter un petit extrait d'un film que tu connais.
D'accord.
Mon Dieu.
Une façon peut-être de vous rappeler mes sentiments pour vous.
C'est
un diamant, oui. 56 carats pour être exact.
Les quarts de l'océan.
Il a été porté par Louis XVI. Il l'avait appelé Okeanikor.
Le cœur de l'océan.
Oui.
C'est bien trop beau.
Mais c'est la pierre des rois. Nous sommes des rois, Rose.
Voilà. Alors, t'as reconnu ?
Mais bien sûr ! Tu sais que je l'ai le... tu sais que j'ai le cœur de l'océan comme une bonne vieille meuf.
C'est vrai.
J'ai, sur mes clés, en fait, bon, c'est pas vraiment le cœur de l'océan. En fait, c'est un cœur dans lequel il y a le visage de Leonardo DiCaprio et de Kate Winslet.
Putain, mais j'ai vu tes clés 100 fois. J'ai jamais vu ce.
Et tu l'as jamais remarqué. Mais ouais.
Faudrait que tu me le montres.
En fait, à la base, c'était un collier merdique, tu vois. Et j'ai juste, genre, j'ai enlevé le collier et je l'ai mis en porte-clés. Comme ça, j'aurais toujours le cœur de l'océan avec moi.
Bon,
fantastique.
Alors, je vais commencer mon histoire. Il semblerait que James Cameron se soit inspiré du diamant Hope pour créer le cœur de l'océan qui apparaît dans le Titanic. Le cœur de l'océan n'a jamais été sur le Titanic. Il n'a d'ailleurs jamais existé. Par contre, le diamant Hope, lui, il a existé et il a effectivement appartenu à des rois. Selon la légende, le diamant aurait été dérobé sur une statue de la déesse Sita dans un temple en Inde. Et le voleur, enfermé toute la nuit dans le temple, aurait été frappé par la foudre au petit matin. La pierre précieuse aurait ensuite été rachetée par Jean-Baptiste Tavernier, un négociant en pierres précieuses au service du roi Louis XIV. Le roi demanda à ce que le diamant soit retaillé pour améliorer son éclat, ce qui a pris 2 ans à Jean Pitant. La gemme passa de 115 carats à 67 et fut rebaptisée le Bleu de France. Le c'est diamant... Quoi?
Bah, c'est... Enfin, du coup, ça perd de la valeur. Ils s'en foutaient.
Ah ouais, mais il est, du coup, il est de beaucoup plus d'éclat. Et la taille est de sorte que il y a une sorte de soleil sur le devant. Et il était tenu sur... je sais pas comment ça s'appelle. Une sorte de bâton en or. Qui se reflétait à l'arrière, qui se reflétait dans le soleil et ça faisait un soleil qui brillait. Et vu que c'était la pierre du roi soleil, enfin bref. Donc ouais, en fait, même s'il a perdu des carats, il était beaucoup plus, encore plus beau et il restait quand même. Enfin, combien j'ai dit qu'il faisait de 67 carats, c'est quand même 67, c'est quand même énorme en fait. Ok. Mais certes, mais et donc il est rebaptisé le Bleu de France. Le diamant fut monté en pendentif sur l'insigne de la toison d'or et rejoignit les joyaux de la couronne. Mais cette réduction ne lui ôta pas son sort maléfique. On raconte d'abord que Jean-Baptiste Tavernier fut dévoré par une meute de chiens enragés. Nicolas Fouquet, le ministre des Finances de Louis XIV, qu'il avait emprunté pour un dîner officiel, fut reconnu coupable de détournement de fonds et emprisonné à vie. Il mourut en prison. Le roi lui-même mourut ruiné et politiquement affaibli, son royaume épuisé. Louis XVI et Marie-Antoinette, qui héritèrent ensuite du diamant, finirent leur jour, comme on sait, sous le couvert de la guillotine pendant la Révolution française.
Ah oui.
La princesse de Lamballe, favorite et confidente de la reine Marie-Antoinette, qui portait souvent le diamant, tomba plus tard sous les coups d'une foule parisienne enragée et fut tuée en pleine rue. Après la Révolution, le diamant bleu fut volé dans le garde-meuble royal, aujourd'hui hôtel de la Marine, dans un des plus gros casses du siècle, puisqu'il dura 4 nuits, du 12 septembre au 16 septembre 1792. En fait, personne ne s'apercevait que des choses disparaissaient, et du coup les voleurs revenaient les nuits suivantes.
Ouais, putain.
Et dans le butin, il y avait le diamant. Il fut retaillé pour être vendu plus facilement, et on perd sa trace pendant 20 ans. On raconte que le diamant a été retaillé par Willem Falz, je sais pas comment on dit, un joaillier hollandais, et que peu de temps après, son fils le tua pour lui voler le bijou, et ensuite, pris de remords, se suicida.
Oh putain.
En 1812, un gros diamant bleu, correspondant fortement à celui qui avait été volé 20 ans plus tôt en France, fit son apparition en Angleterre, à Londres. Sa taille avait été réduite de plus de 20 carats. Il semblerait que le diamant fut vendu entre 1812 et 1814 au roi d'Angleterre, George IV, qui mourut à l'âge de 67 ans après seulement 10 années de règne, extrêmement malade et extrêmement ruiné. En 1830, à la mort de George IV, le bijou désormais historique fut acheté par un banquier londonien du nom de Henry Thomas Hope, qui le paya 150 000 dollars. C'est depuis ce temps-là que le diamant bleu porte le nom de Hope. Le banquier connut rapidement des revers de fortune et la famille Hope sera ruinée sur 2 générations. Un des derniers héritiers se débarrassa enfin du bijou en le vendant. Puis, pendant 16 ans, la pierre maléfique passa de main en main en continuant de foudroyer ses différents propriétaires. Le français Jacques Collet se suicida. Le prince russe Ivan Kanitovitch mourut assassiné par des révolutionnaires russes. En 1908, le sultan turc Abdulhamid paya 400 000 dollars pour le diamant qu'il s'empressa d'offrir à sa concubine préférée, Subaya, et il fut renversé par une révolution 1 an après.
Oh, putain.
Ce fut Simon Mohan Charid, un marchand grec, qui en devint ensuite propriétaire, et on raconte qu'il fut peu de temps après victime d'un accident de la route. Sa voiture tomba dans un ravin, le tuant, ainsi que sa femme et leur petite fille. Le joyau est ensuite revendu à un collectionneur turc habitant Paris. C'est le retour du bijou en France. Et c'est finalement la maison Cartier qui achètera le diamant bleu et qui le dotera d'une nouvelle monture. Un des trois fils Cartier revend le bijou en 1911 aux États-Unis à Evelyn McLean, femme de Ned McLean, un magnat des finances aux États-Unis, propriétaire du Washington Post. Elle achète le diamant parce que, en plus de le trouver magnifique, elle croit pas du tout aux malédictions et veut prouver que rien de terrible ne lui arrivera.
Oui, parce que pendant tout ce temps, les malédictions, la malédiction sur le diamant, elle circule. C'est pas genre après.
Ah non.
Les gens qui l'achètent savent que.
Oui. Ouais, en tout cas, okay. Cartier qui vend le bijou à Evelyn McLean, il lui parle de ça, en fait.
D'accord.
Il joue sur la réputation du bijou et il vient avec un colis scellé et il lui raconte toute l'histoire et toutes les victimes et ensuite il ouvre le colis et ça attire la curiosité et du coup, peu de temps après, il y a je ne sais plus quel journal aux États-Unis quand elle l'achète qui titre « Achat d'un bijou maudit ». Enfin, donc oui, c'est très connu.
Ok, d'accord.
Donc elle croit pas du tout aux malédictions et elle dit que rien ne va lui arriver, que même ça lui portera chance. Mais son fils, Vincent, va se tuer peu de temps après dans un accident de voiture et leur fille, ensuite, d'une overdose. Ned McLean, ruiné par la Grande Dépression, finit ses jours dans un asile psychiatrique et Evelyn est retrouvée morte chez elle quelques temps plus tard et sa mort n'a jamais été élucidée. À sa mort, c'est Harry Winston, un célèbre joaillier new-yorkais qui rachète la collection de bijoux des McLean, dont le diamant bleu. Il devient l'attraction centrale de sa fabuleuse collection La Galerie des Bijoux, qui faisait le tour du monde pour lever des fonds de charité. Et puis très patriote, Winston décide de faire don au National Museum of Natural History du Smithsonian of Washington en 1958. Et il décide d'envoyer le diamant par la poste. Je trouve ça fou.
Colissimo.
Et James Todd, le facteur qui a fait la livraison, est considéré comme la dernière victime du diamant. En effet, juste après avoir livré le diamant, il est victime d'un terrible accident et il se brise la jambe. Ensuite, il aura un deuxième accident qui lui provoquera un traumatisme crânien. Et peu de temps après ce deuxième accident, il perd sa maison dans un terrible incendie. Et il voit sa femme mourir sous ses yeux.
Oh putain, voilà. Horrible.
Après être arrivé au musée, il semblerait que la malédiction se soit levée. Il porte même plutôt chance au musée, puisque le diamant attire plus de 7 millions de visiteurs par an. C'est le deuxième objet d'art le plus visité au monde après la Joconde.
Mais il y a encore ?
Il y est toujours.
Mais j'y étais en septembre dernier, je l'ai pas vu.
Et voilà. Il y a des débats sur l'appartenance du bijou. Certains disent qu'il appartient aux États-Unis, d'autres à la France. Moi, je vais clore le débat. Il appartient à l'Inde, en fait. Il a été volé. ça suffit maintenant. Voilà. Récemment, certains experts ont révélé une propriété extraordinaire de la pierre. Retiré de sa vitrine au musée, le diamant a été placé sous une lampe ultraviolette. Et une fois la lumière éteinte, la gemme émet une lueur rouge très intense. D'après les scientifiques, c'est la présence de bore, B-O-R-E, un élément atomique extrêmement toxique pour l'homme et les animaux, qui permet cet effet. Et on a découvert que d'autres diamants bleus possédaient un éclat similaire qui peut perdurer jusqu'à 28 secondes après avoir éteint la lumière. T'as un bijou bleu, t'éteins la lumière et il brille en rouge. Enfin, c'est impressionnant à voir.
Ça doit être incroyable.
Ouais. Mais sinon, il a été remis dans sa vitrine et il est toujours au Smithsonian. Et
putain, mais j'ai raté ça.
Ouais, faudra que tu y retournes.
C'est peut-être pour ça que je me suis pété la jambe, genre quelques mois plus tard. Le diamant m'en voulait de ne pas être venu le voir et d'avoir passé 3 heures sur les squelettes des
dinosaures. Donc, moi, personnellement, alors ça, c'est ma conclusion que j'ai bâclée. Je suis allée super vite, hein. Donc personnellement, moi j'ai du mal à croire aux malédictions et aux forces paranormales et tout ça, donc j'ai tendance à chercher des explications rationnelles.
Bien sûr.
Je pense que les soi-disant victimes de diamants sont mortes ou ont subi des coups du sort pour des raisons qui concernent absolument pas le diamant.
Ouais.
Genre Marie-Antoinette n'a pas eu la tête coupée parce qu'elle avait un diamant, parce que c'était la Révolution. George IV, il buvait trop et il dépensait trop, il est mort ruiné et très malade. Enfin, à chaque fois, tu peux trouver une raison.
Oui, mais c'est clair. De toute façon, tout le monde meurt à un moment donné, quoi. Enfin, si,
personne n'est éternel. Genre... Ouais.
Voilà.
Du coup, voilà. Et oui, et genre, bah, si t'as les moyens d'acheter un diamant, t'as les moyens de perdre ta fortune. Et donc, enfin.
Oui, oui, c'est bon, clair.
Voilà. Donc, j'ai c'est extrêmement ça. Bâclé mon histoire. Nous ne sommes plus dans un thème Halloween. Attends, je vais revenir dans le mood. Et donc, nous ne saurons jamais si ce diamant était maudit et si une terrible malédiction s'était abattue sur ses propriétaires. Toujours est-il qu'il est toujours au musée Smithsonian à Washington et que la malédiction semble être levée temporairement.
Magnifique. Mais en fait, on ne sait pas parce que peut-être que les visiteurs qui vont à la Smithsonian et qui vont au musée d'histoire naturelle et qu'ils le voient, vu que c'est des personnes comme toi et moi, peut-être que en fait, il leur arrive des accidents et on n'en entend pas parler.
Attends, parce que après, ouais, et puis il faut noter que c'est Trump, le président des États-Unis. Si ça, c'est pas une c'est putain de ça. Malédiction.
Est-ce que c'est pas ça la malédiction
de la gemme, ouais.
Trump, c'est donc, à voilà. Cause du diamant. Rendez-le à l'Inde, les gars.
Rendez-le à l'Inde, ouais. Non, bah c'est les bon. Pauvres Indiens, je sais pas détruire.
Mais non, mais peut-être que en fait,
ah non,
peut-être que le diamant. Il est triste depuis toutes ces années.
Il faut le rapporter à la déesse Sita.
Je pense, ouais.
Et le sort sera... Ouais, peut-être.
Tu sais, c'est comme dans Vaiana, il faut ramener le cœur de, de la déesse.
J'ai cru que t'allais me sortir, genre, la malédiction des pharaons et tout, quand tu me parles de Vaiana.
Et chacun ses rêves, ok. Mais oui, dans Vaiana, tu sais, il y a toute la terre qui est en train de mourir.
Qui meurt, ouais.
Parce qu'il faut ramener le petit cœur à la déesse. Ben là, c'est pareil.
Ben, peut-être.
Donc, on envoie un appel à la Smithsonian de rapatrier le diamant
le
bleu.
Le diamant. ASAP. ASAP as possible. voilà, écoute, et donc j'ai trouvé cette histoire dans un article de Forbes. Et une émission de Au cœur de l'histoire. Et sur le wiki.
Évidemment, Wikipédia, nos meilleurs amis.
Voilà.
Merci beaucoup, je connaissais pas du tout cette histoire.
Et t'es pas déçue de la façon dont je te l'ai délivrée?
Mais non,
j'ai super bien. Frustrée, ok.
Mais non, mais c'était très bien.
Ok, voilà.
Moi, écoute, du coup, tout le long, j'étais là.
Diamant genre, maudit. Ouais.
Très bien. Ben,
voilà.
Un diamant que j'ai un petit peu dans mon porte-clés.
bah ouais, carrément. Ah, je voulais te c'est montrer des vrai. Images. Mais je les ai pas préparées. Attends.
J'aimerais bien voir à quoi il ressemble le...
Bah ouais.
Genre, quand il a été refaçonné par Louis XIV.
Ah, ok. Donc là, c'est sur la toison d'or.
Ah, c'est trop stylé.
Là, c'est le diamant.
Ouais.
Et ensuite, quand il a été retaillé par Hope, enfin aux États-Unis, ouais. Enfin à Londres, pardon.
Ouais.
Il ressemble à...
Waouh. Hey, ça ressemble vraiment au truc dans... Waouh.
Ouais.
Ça ressemble grave à... au cœur de l'océan, du coup.
Grave.
Effectivement. Waouh, c'est trop beau. Par contre, imagine avoir ça autour
ça,
du cou.
Ça, c'est quand Louis XIV l'a reçu.
D'accord.
Il était taillé, mais il était quand même un peu brut.
Ouais. Ouais.
Et ensuite, il en a fait la... Il l'a mis sur la toison d'or. Voilà.
Oh, c'est énorme. Ouais. Magnifique. Bah écoute, t'imagines avoir un truc comme ça autour du cou quand même ? Ça doit être gênant.
Tu dois te taper de ces torticolis, mon pote. Non, il a l'air très beau. Il a l'air très très beau, mais ouais.
T'imagines, tu te baisses pour, je sais pas, genre ramasser un truc, tu te le prends dans les dents. C'est une pointe comme ça. Tu te le prends dans les dents, tu te pètes les dents de devant.
Bah ouais, mais après tu peux mettre des... Peut-être tu peux mettre des pierres précieuses à la place de tes dents.
Tu peux mettre des jams sur tes cacholes.
Ouais, comme Robin des Bois dans le dessin animé, quand il vole les bijoux et qu'il sourit.
Ok. Ah, trop stylé.
Voilà. Bien. Est-ce que t'es capable de faire une transition ?
Je suis capable de faire une transition parce que, effectivement, donc on a parlé de Louis XIV et moi aussi on va en parler un petit peu de Louis XIV. Parce que mon histoire, elle se passe en 1632. Donc Louis XIV, à ce moment-là, n'est pas encore né, mais tu vas voir, ça ne va pas tarder. Allez, magnéto. Moi, je vais te raconter l'histoire des démons de Loudun.
Ok.
Mon histoire, elle se passe dans le couvent des Ursulines à Loudun, une petite commune de la Vienne, dont le gentilé, pour, enfin, les habitants, s'appellent les...
Attends, les Loudaniens.
Les loups du nez. Les loups du nez et les loups du nez.
Ah, c'est mignon. Ouais.
Ah oui, c'est trop mignon, voilà. J'ai décidé que maintenant, j'allais demander les gentillés à chaque fois.
C'est les gentilés.
Gentilés ?
Ouais.
Les gentilés. Je pensais que c'était les gentillés. Bon, écoute.
Il me semble qu'il n'y a qu'un seul L. Non, je sais pas.
Ouais, ouais. En plus, il n'y a qu'un seul L. Je suis débile. Les habitants. Voilà. Voilà.
Les habitants de la ville. Ouais. Le nom des habitants.
Je voulais faire mon intello à dire gentilé parce que je l'utilise jamais, clairement.
Voilà. Bon. Alors que moi, alors... je l'utilise toutes les semaines, je pense. Ah ouais? Sans mentir. Je sais pas pourquoi. Je finis toujours par demander quel est le gentilé de telle ville.
Quel est le gentilé? Ouais, moi non, je crois que j'ai découvert ce mot il y a genre quelques mois et clairement je ne l'ai pas utilisé avant aujourd'hui.
Ah putain, tu sais pas ce que tu as dit.
Dans la nuit du 21 septembre 1632, trois religieuses, sœurs de Colombier, sœur Marthe de Sainte-Monique et Jeanne des Anges, sont réveillées par la voix et la silhouette d'un homme grand et barbu. Il s'agit de leur confesseur, le prieur Mousseau. Au-delà du choc initial de se faire réveiller en pleine nuit, le fait le plus troublant est que le prieur Mousseau est, à ce moment-là, mort depuis quelques mois. Depuis qu'il est décédé, les pensionnaires du couvent ainsi que les religieuses entendent des bruits dans le grenier, voient des apparitions aux fenêtres. Le couvent semble hanté par l'esprit du confesseur décédé. Deux jours plus tard, le 23 septembre, en pleine messe, les trois religieuses se mettent à convulser, grimacer, insulter Dieu et hurler des blasphèmes. À partir de ce moment-là, la folie qu'elles manifestent déjà prend de l'ampleur et touche bientôt 14 sœurs du couvent. Chacune à leur tour, elles affirment avoir vu le fantôme de Mousseau, perdent leur appétit, courent nues sur les toits du couvent, grimpent aux arbres, bref, la folie s'empare de Loudun. Jeanne des Anges, la mère supérieure, confesse un nouveau confesseur, du nom de Jean Mignon, être prise d'envie irrépressible de désir charnel et impie. Celui-ci, un petit peu stressé par la situation, contacte Pierre Barré, un autre prêtre connu pour s'être occupé de cas de possession dans sa paroisse. Celui-ci débarque à Loudun. Mignon et Barré préviennent les autorités que Jeanne des Anges est possédée. Il pratique un exorcisme et un interrogatoire pour savoir d'où vient le pacte avec le diable à l'origine des possessions, parce que c'est forcément un pacte avec le diable. Elle désigne un certain Urbain Grandier, le curé de Loudun. Elle explique que d'autres religieuses l'ont également identifié dans leur délire. Urbain Grandier s'adonnerait à des ensorcellements ainsi que des attouchements sexuels et autres obscénités sur les religieuses.
Oh.
De nombreuses religieuses affirment être tombées amoureuses de lui après avoir senti des roses ensorcelées. Pardon. Et la mère supérieure, Jeanne des Anges, révèle avoir fait des rêves inappropriés avec le curé, ce qui apparemment est un signe de maléfice à l'époque. Écoutez, personnellement, j'ai fait 2-3 rêves inappropriés et je ne me suis jamais réveillée en criant à l'exorcisme. Mais bon, bref.
Ouais.
Imagine, tu rêves d'un moment complice avec Tom Hardy et quand tu te réveilles, tu lui intentes un procès pour sorcellerie. Bon.
Non, je pense que je ne ferai pas ça, non.
Non.
Enfin, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, non.
Je précise. Bref. Urbain Grandier, c'est un peu une personnalité sulfureuse parmi les loups du nez et les loups du nez. Il sort du lot. Il s'est forgé une réputation un peu honorable et en défiant le cardinal Richelieu à maintes reprises. Une histoire de rempart de la ville, ils n'étaient pas d'accord, bon, bref, de okay. Tolérance avec les protestants et de transfert du moulin à sel de Loudun vers une autre ville. Une sale affaire.
Ok, putain.
Donc, sale réputation auprès de Richelieu. Aussi, il entretiendrait 2 jeunes femmes de la ville qu'il a mises enceintes. Tant et si bien que sa hiérarchie lui interdit même d'administrer les sacrements. Donc il devient un peu le chat noir de la ville. En plus de ça, il est proche de notables protestants, et à l'époque où c'est un peu la guerre entre les protestants et les catholiques, c'est la réforme, la contre-réforme, tout ça. Bref, est-ce que cet isolement l'aurait poussé à la vengeance en ensorcelant le couvent des Ursulines. Il faut aussi savoir que le contexte est particulier. La ville a été frappée, au début de l'année, par une épidémie meurtrière de peste, tuant un habitant sur quatre. L'odeur de la mort est encore présente dans les mémoires des loups du nez et loups du nez. Et alors que la ville se remet peu à peu de ses mois difficiles, toutes les religieuses se perdent les chèvres en même temps. Une autre Ursuline va accuser formellement Urbain Grandier d'ensorcellement. Elle l'accuse de l'avoir ensorcelé et d'avoir permis au démon Astaroth de la posséder. Astaroth, c'est le trésorier des enfers. Un puissant duc, un ange déchu devenu extrêmement laid et représenté chevauchant un dragon infernal tenant une vipère dans sa main. Il pue horriblement et à cette époque, c'est souvent lui qu'on invoque pour des ensorcellements. Fun fact, il est aussi dit qu'il enseigne les arts libéraux, à savoir ce qui correspond à la grammaire, la dialectique, la rhétorique, l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. C'est donc un prof, voilà. Cherchant une solution, Mignon et Barré s'adonnent à de nombreux exorcismes sur les religieuses. D'abord privés, ils procèdent ensuite aux exorcismes publics pendant de longs mois, des spectacles macabres à base de tortures physiques, où les religieuses se contorsionnent de douleur. Elles prennent des drogues avant les exorcismes pour supporter la douleur, tant et si bien qu'elles ne savent plus ce qu'est la réalité. En parallèle, en novembre 1633, l'enquête officielle, donc il y a l'enquête de l'Église et l'enquête officielle de l'État, qui est confiée au conseiller d'État Jean-Martin de Laubardemont, qui va créer une commission spéciale pour sorcellerie. Entre 1621 et 1625, Laubardemont, il a envoyé plus de 120 personnes au bûcher. C'est genre la superstar de la chasse aux sorcières.
Ok.
Ouais. Donc il débarque à Loudun. La même année, donc, que tout ce qui se passe. Il débarque à Loudun, en fait, un petit peu avant que les troubles commencent, parce qu'il a été envoyé pour gérer les affaires de rempart entre Richelieu et...
Encore cette affaire de rempart.
Ah, c'est putain d'affaire de rempart. C'est sacré rempart. Ouais. Donc, du coup, il débarque au moment où les troubles commencent. Une enquête est menée pour trouver le pacte avec le diable signé de la main d'Urbain Grandier et on cherche une quelconque marque du diable sur le corps des religieuses qui sont ainsi déshabillées et rasées. On les interroge en plusieurs langues car, on le sait tous, les démons parlent plusieurs langues.
Évidemment. My Taylor is rich.
Ouais, exactement.
T'as la elle ref. Parle.
Elle... Ben, My Taylor is rich, c'est pas genre ce que les gens apprenaient, genre la seule phrase en anglais que les gens apprennent.
Oui, oui, mais c'est dans la version française de L'Exorciste. À un moment, le prêtre il parle à la gamine et c'est le diable qui répond et dit My Taylor is rich.
Ben, c'est un peu ce qui se passe. Mais elle parle pas en anglais, elle parle en latin. Ouais. Mais elle parle en latin mal. Et bon, c'est normal pour des religieuses d'apprendre le latin, parce que la messe est dite en latin, donc bon, voilà.
Ouais.
C'est pas... voilà. Donc, pour certains, ça prouve que c'est un peu une supercherie. Elles sont pas vraiment possédées par les démons, parce qu'elles savent pas parler plein de langues.
Mais elles font semblant d'être possédées.
Peut-être. Tu vas voir.
Ok.
Le chasseur de sorcières, lui, il en démord pas. Surtout que ces deux belles-sœurs, elles font partie des religieuses possédées, donc c'est personnel. Il doit trouver le fameux de l'histoire.
Ok.
Sur les corps des religieuses, on cherche également une zone insensible qui serait la preuve d'un quelconque contact avec la griffe du diable.
Okay.
Selon Jean Baudin, un célèbre démonologue de l'époque, c'est par un point d'insensibilité que le ou les démons pénétraient les corps des victimes et les possédaient. Donc si une aiguille enfoncée dans une partie du corps ne faisait pas mal ou ne provoquait pas de saignement, cela voulait dire que la personne était possédée.
Okay.
Et si la femme, car on va pas se mentir, c'est surtout des femmes, pesait moins lourd qu'un canard, cela voulait dire qu'elle pouvait flotter, comme du bois, et comme le bois ça brûle, et qu'il y a quoi d'autre qui brûle ? Les sorcières !
Les sorcières !
Voilà, bref, je m'égare, mais d'aucuns auront reconnu la logique implacable et impeccable des Monty Python. Le 6 décembre 1633, le jour de mon anniversaire, je précise, Urbain Grandier est arrêté et son domicile perquisitionné. les enquêteurs trouvent son traité sur le célibat des prêtres, dans lequel il plaide pour le mariage, espérant lui-même épouser Madeleine de Broux, une de ses fidèles dont il était tombé amoureux. Du coup, ça, ça plaît pas trop aux enquêteurs. Ils sont là, dis donc, un prêtre qui veut se marier, c'est n'importe quoi. En 1634, Jeanne des Anges remet aux chasseurs de sorcières un pacte avec le diable signé de la main d'Urbain Grandier. Malgré cela, il est acquitté par le tribunal ecclésiastique, faute de réelles preuves en fait. Bon, ils y croient pas trop
au faux pacte avec le diable. Ah bon ? Mais ouais. Alors, il y a une femme, elle tousse, on dit que c'est une sorcière au bûcher, et là, il y a un papier avec signé, je dis pas que ça veut dire qu'il a fait un pacte, mais ça fait quand même une putain de preuve. Normalement, quand c'est des femmes, ils cherchent pas plus que ça, et là, il y a un papier signé du nom, je suis outrée, vraiment, excusez-moi, ouais. Mais je suis outrée, outrée.
Je comprends, mais attends, parce que là, il a été acquitté par le tribunal ecclésiastique. Okay. Faut aussi se dire que c'est un prêtre hein, à la base, donc.
Voilà.
Tu vois ?
Ok. Oui, la hiérarchie, bah, c'est à cause ça, de ça. C'est un homme et c'est un prêtre.
Pas faire de vagues. Donc il est acquitté par le tribunal ecclésiastique, mais pas par le tribunal séculaire. Et à la tête du tribunal séculaire, en fait, il y a Jean-Martin de Laubardemont. Et lui, il veut en découdre. Donc il y a un
mais
procès.
Mais il est coupable de quoi ? Il est coupable de quoi par le tribunal séculaire ?
Eh ben, il l'accuse de.
Parce qu'il n'y a pas de mort. Il y a des morts ?
Non, il n'y a pas de mort. Il l'accuse de sorcellerie, en fait.
Ah, le tribunal séculaire aussi,
Oui.
Ah,
tout le monde l'accuse de sorcellerie.
D'accord.
Mais en gros, le tribunal ecclésiastique, ils sont là, bah non, il n'y a aucune preuve réelle contre lui.
Ouais.
Enfin bon, clairement, elles sont possédées, mais il n'y a rien qui prouve que c'est lui.
Ok.
Et le tribunal séculaire, il est là, genre...
Si. Moi, oui, ouais, d'accord.
Si, c'est lui. Donc, trois jours de procès. On le soumet à la question, c'est-à-dire on le torture. C'est le père Lactance qui va le torturer.
Putain, mais ils ont tous des noms, mais c'est un concours.
À coucher dehors. Ah, c'est terrible.
Lactance.
Ouais.
Ok.
Et Urbain Grandier, il va toujours clamer son innocence.
Ok.
Quand il est soumis à la question, on lui comprime les jambes jusqu'à écraser ses os. Mais jamais il ne renie Dieu.
Ok.
On l'accuse également d'avoir lu des traités d'alchimie, et donc de s'intéresser au diable, mais sans réelle preuve. Au moment du procès, même les Ursulines vont se rétracter. Elles vont dire en fait, non bah, en vrai c'est pas lui les gars. Bon, voilà.
C'était un prank, c'est parti trop loin.
Oups, sorry. Malgré tout ça, il va être condamné au bûcher, par le tribunal séculaire.
Non mais attends, les nonnes là, les sœurs là,
ouais.
elles justifient comment leur changement de... Elles justifient pas ? Elles disent
non,
bah
elles
ouais
disent,
on était
bon, bah,
possédés
on...
mais c'était pas lui, ouais je t'ai montré un pacte signé de sa main mais non c'est pas lui.
Ouais, plus ou moins. Alors on met Jeanne des Anges de côté parce que je vais revenir sur elle. Mais les autres religieuses, en fait, elles sont là genre... Ben, en fait, on sait pas si on était vraiment possédés. En fait, non, on l'a pas vu. Voilà.
Putain, ok.
Ouais. Donc, Urbain Grandier, il est rasé de la tête aux pieds. Il est placé dans un tombereau, conduit à travers la ville et brûlé vif. Faut savoir que à ce moment-là, normalement, les personnes accusées et condamnées de sorcellerie, ils étaient d'abord... étranglé et ensuite brûlé vif. Enfin, brûlé. Lui, il l'étrangle même pas. C'est-à-dire qu'il est vraiment genre brûlé en pleine conscience.
Parce qu'on on veut vraiment le faire souffrir, quoi.
Exactement.
Oh, quelle horreur.
6000 personnes vont venir assister à son supplice. Peu de temps après sa mort, le chirurgien qui avait recherché les points d'insensibilité sur son corps, ainsi que le père Lactance, qui l'a torturé, sont pris de remords. Et sombre dans la démence. Ou alors, est-ce Urbain Grandier qui vient les hanter une dernière fois ? J'ai tenté un petit...
T'as raison.
J'ai tenté un petit effet, tu vois. Malgré la mort d'Urbain Grandier, les crises de possession vont durer encore jusqu'en 1637. Notamment, celle de la mère supérieure, Jeanne des Anges. Un des jésuites qui va essayer de l'exorciser va raconter les assauts des démons, des suggestions perverses, des obsessions, des impulsions violentes. Un peu à la... Exorciste, quoi. Ta mère, suce des bites en enfer. Bon, en tout cas, je pense que c'est ça qui s'est passé.
Ok.
Le 15 octobre 1637, le père Turin chasse le dernier démon de son corps. Jeanne des Anges, à partir de ce moment-là, va devenir célèbre. Un personnage mystique, presque une sainte. On va la présenter comme faisant des miracles. Elle va faire une tournée triomphale de 5 ans à travers le royaume de France, où elle va exposer ses mains comportant la marque du démon. Il aurait gravé sur sa main, en quittant son corps, Jésus, Marie, Joseph et François de Sales, un évêque.
Putain, il a écrit petit.
Ouais, il écrit petit, le démon.
Des vraies pattes de mouche.
Il a une écriture très fine.
Ouais.
Ouais, bon, apparemment il a écrit ça sur sa main. Donc elle va montrer ça pendant 5 ans à qui veut voir. Voilà.
Ok.
Elle va même être présentée au roi et à Richelieu. Anne d'Autriche, la femme de Louis XIII, va tellement être impressionnée qu'elle va l'inviter à son accouchement. Et Jeanne des Anges va assister à la naissance de Louis XIV.
Ah.
Et voilà. Et ouais, ouais. À sa mort, sa tête va être conservée par son couvent et exposée pendant des années.
Quoi ?
Ouais, c'est dégueu.
Voilà. Mais, ok. Conserver.
Elles vont garder sa tête, tu vois, un peu comme... Bah, tu sais, un peu genre dans un truc avec une glace, quoi. Un peu comme les saints, tu gardes des reliques, quoi. Bon, bah, la relique, c'est sa tête.
Ok.
Ouais, c'est un peu chou.
Tu sais ce que j'ai appris ? J'ai appris que... Pardon.
Ouais. Vas-y.
En fait, j'ai appris que, genre, à Paris, il y a beaucoup d'églises où on peut voir des saints qui ont été conservés. Ouais. Et j'en ai parlé à mon père et il m'a dit, tu sais, c'est pas vraiment eux les saints, enfin c'est des gens qui ont été tués et qui ont été mis là. Ouais. C'est pas les saints, quoi. C'est horrible, c'est horrible. En fait.
Ouais, ouais, c'est horrible. Je savais pas... Je savais que dans certaines églises, tu vois, ils disent que dans genre cette urne ou cette truc, il y a un morceau de saint truc.
Ouais, mais alors il y a des églises à Paris où ils sont dans des vitrines, on peut les voir en fait. C'est des corps décharnés qui sont exposés. Quoi, ouais.
Ah, voilà. Dégueu.
C'est horrible.
On ira oui. La prochaine fois que je vais
j'ai vraiment envie d'aller voir ce que c'est.
Ouais.
Mais c'est bon, apparemment, c'est juste des pauvres personnes qui ont sans doute demandé de l'argent en échange pour leur famille. Enfin, des trucs un peu tristes, quoi.
C'est trop triste.
C'est pas vraiment des saints qui auraient fait des miracles ou quoi, qui sont exposés là, quoi. Mais bon.
Oui, de toute façon, les saints, ça existe pas.
Bah, moi, j'en ai deux. Non. Non, je la couperai au montage.
Ah non, garde-la. C'était sorti du cœur.
C'était sorti du poitrail. Non, bon, ok. Grosse beauf, putain. Bon, ok, vas-y. Donc, la tête de Marie des Anges.
Ouais, sa tête est gardée.
Jeanne des Anges, comment elle s'appelle ?
Jeanne des Anges. Oh, et en fait, pendant tout le temps que je faisais l'histoire, je me disais Jeanne des Anges, genre de la télé-réalité. Mais c'est pas du tout la même ambiance.
Non.
Maintenant, libre à vous de croire en une réelle présence diabolique au sein du couvent, mais il existe plusieurs pistes, un peu plus rationnelles, pour expliquer l'affaire des démons de Loudun. Autant le couvent hanté que les affaires de possession diabolique. Donc, est-ce que je te les expose ou est-ce que tu vas rester dans...
Non, vas-y.
Ok.
Expose-les.
Alors, en fait, il existe énormément de sources écrites sur les démons de Loudun.
Ok.
Pour ce qui est du couvent hanté, il faut savoir que quelques religieuses vont avouer, après les faits, que les apparitions du confesseur n'étaient qu'une farce. Elles avouent qu'elles étaient à l'origine des bruits dans le grenier, qu'elles arpentaient les toits en faisant des bruits étranges pour faire peur aux autres religieuses et aux pensionnaires du couvent.
Quoi ?
Et que ça a marché parce qu'ils n'étaient pas au courant et ils étaient terrifiés. Ouais. C'était juste un prank.
C'était vraiment un prank.
C'était vraiment un prank.
Oh, hashtag ça tourne mal.
Pour le couvent hanté. Après, il y a d'autres trucs qui se sont passés. Donc, pour le reste.
Déjà, ouais.
Il est aussi dit que Jeanne des Anges, donc la mère supérieure, était atteinte de difformité physique et de schizophrénie. Et que, en fait, elle était inéligible au mariage, ce qui l'avait vouée à la vie religieuse, et qu'elle avait pris en grippe Urbain Grandier à cause de sa réputation de séducteur, etc. Et donc, en gros, elle était jalouse. Bon, ça, je trouve ça un peu nul. Mais bref, voilà. En tout cas, sa condition schizophrène expliquerait qu'elle continue à avoir des hallucinations bien après les autres.
Ok.
Et le fait que d'autres religieuses se retrouvent à avoir des visions, elles aussi, est expliqué comme un cas de mimétisme ou d'hystérie collective. Comme par exemple pour la folie dansante de Strasbourg, etc. Ouais, c'est en fait un cas d'hystérie collective et tout le monde s'est pris dans le truc. Mais qu'à la base, en fait, ce serait elle qui serait plutôt schizophrène. Ou qui fait semblant. Parce qu'il y a aussi ça. Est-ce qu'elle a vraiment eu des visions ? Est-ce qu'elle était réellement possédée ? Ou est-ce que c'était du flan ? Ce qui crie au complot soulève plusieurs motivations possibles. Il y a la thèse de l'intérêt économique, pardon. En effet, à l'époque, toute communauté religieuse reconnue comme possédée recevait une pension du roi pour la dédommager de la mauvaise réputation. Donc, est-ce que les sœurs auraient manigancé toute cette histoire pour un peu d'oseille et, d'une pierre deux coups, auraient réussi à se débarrasser du prêtre sulfureux de la ville ? En fait, chaque protagoniste de cette affaire en tire parti. Lobardemont, donc le chasseur de sorcières, il va devenir extrêmement célèbre. Et il va se voir offrir l'intendance de plusieurs provinces. Donc il va s'en mettre plein les fouilles, en fait. Les Ursulines, elles vont recevoir plus de 2000 livres par an. C'est l'équivalent de presque 6000 euros aujourd'hui. Alors, ça peut nous paraître rien du tout d'avoir 6000 euros par an aujourd'hui, mais à l'époque, je pense que c'était énorme.
Ben, même en tant que religieuse, en fait, normalement, tu reçois oui, tout pas court. De salaire, en plus, donc...
Donc là, en fait, elles vont recevoir ça, mais et elles vont pouvoir changer de couvent. Pour... Non, le couvent.
Pour le couvent, ouais.
Le couvent. Mais bon, c'est déjà énorme, et en fait, elles vont pouvoir bouger dans un autre couvent, parce que, avec le bordel entre les catholiques et les protestants, en gros, les protestants, ils vont se faire virer de la ville, et du coup, elles vont leur prendre leur couvent, enfin, ça arrange tout le monde, quoi.
Ouais, je vois.
Jean Mignon, il va récupérer la maison d'Urbain Grandier, maison qu'il convoitait depuis le début, en fait. Et il avait intenté plein de procès à Urbain Grandier avant toutes ces affaires. Genre, il avait accusé de meurtre, il avait accusé de ceci, de cela, machin. Et toujours, c'était faux. Et donc là, bah, il a enfin trouvé un moyen de se débarrasser d'Urbain Grandier.
C'est horrible!
Ouais. Et enfin, dernière personne, Pierre Barret, il va pouvoir relancer sa petite affaire d'exorcisme. Parce que avant que tout se passe, il avait fait des exorcismes, mais ça n'avait pas vraiment marché, genre, ça n'avait pas été prouvé et tout.
Ouais.
Donc les gens lui disaient, genre, t'es vraiment une vieille merde, arrête tes conneries et contente-toi de faire la messe, quoi. Et donc du coup, là, vu qu'il y a toute cette histoire qui s'est passée, ben, ça relance sa petite affaire et il peut repartir faire ses petits exorcismes dans sa compagne. Donc, il y a toutes ces raisons qui font dire que, en fait, est-ce que c'était pas complètement une farce du début à la fin ?
Putain !
La vraie question, c'est de savoir si Jeanne des Anges, elle était dans le complot avec Jean Mignon et Pierre Barret.
Ouais.
Et le chasseur de sorcières. Ou est-ce que elle s'est faite manipuler ? C'est là la vraie question. Mais voilà, c'était l'histoire des démons de
dedans. Incroyable !
J'ai trouvé mes sources sur Wikipédia. Et aussi un documentaire dont j'ai pas pris les références sur YouTube, mais si vous tapez Les Possédés de Loudun, c'est en trois parties. Je vais le chercher là tout de suite. Et voilà.
Comment t'as trouvé cette histoire ?
J'ai tapé histoire surnaturelle française. J'essayais de trouver un truc en fait un peu. Je voulais un truc avec des fantômes, même si moi non plus j'y crois pas, mais je me suis dit genre, ça va faire une ambiance. Ouais. Enfin, un truc un peu, voilà. Et j'arrivais pas à trouver d'histoire de maison hantée. J'aurais aimé, tu vois. Enfin, il y en avait une, mais en fait, c'était un peu nul. Et du coup, je sais pas, je suis tombée là-dessus. C'est les vidéos de Thomas Laurent, Possession à Loudun. Voilà.
Ok.
Voilà.
Trop bien. Ouais. Bravo. Ouais. En plus, tu l'as bien raconté et tout, je suis un peu...
J'ai fait des petits effets, mais...
Mais il faudrait qu'on soit plus souvent comme ça pour raconter et tout, je trouve ça cool. Non, bravo en tout cas, c'était très 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 intéressant, je connaissais pas.
Mais moi non, je connaissais pas du tout et voilà quoi. Je trouve... En fait, la dernière fois, je disais que les vieux me font peur dans les films d'horreur. Il faut savoir que les religieuses aussi me font très peur.
Ah bon, mais tout en fait, non?
Mais ouais, il y a un peu tout qui me fait peur. Les religieuses, ouais, aussi, les vieux, les enfants et les zombies.
En parlant d'enfants, t'as commencé ouais. Bly Manor?
Bien sûr. Ah, j'ai envie de taper ma télé à chaque fois que les enfants ils font des trucs chelous. C'est terrible.
Rien que d'en parler. Mais elle est bien cette série. Hein.
Ouais, j'ai pas terminé encore.
Moi non plus.
Je suis à l'épisode 4, je crois.
Oh putain, l'épisode 5 est incroyable.
Je sais, tu m'as dit, ouais.
Ah pardon.
J'ai hâte. J'ai hâte.
Moi
j'ai
j'en suis à l'épisode 7.
Ok. Donc, mais ouais, ça suit ses promesses, enfin ça tient ses promesses.
Mais ça, ouais, mais ça me fait moins peur que la première.
Oh, mais la première, elle est tellement géniale. Tellement
ouais, ouais, la première est très bien, mais...
Mais ça me stresse...
Mais genre là, les fantômes, ils me font pas trop trop peur.
Oui, mais parce que je pense aussi que du coup, on connaît un peu, pas les ficelles du truc, mais... tu vois, moi par exemple, j'arrête pas de regarder ce qui se passe derrière. J'arrête pas de regarder ce qui se passe derrière les personnages parce que évidemment. Je suis là, il y a un truc. Et ça, ouais, ça m'angoisse terriblement.
Non, mais là, le fait qu'ils soient. Les fantômes sont amis ouais. avec la petite fille.
Ouais.
Bon, je veux pas trop en dire. Mais non. En tout cas,
elle a un lien en moment, tout cas.
Ouais, au bout d'un lien, moment, ouais. T'as plus peur parce qu'en fait, ils sont en train de discuter tranquillement. Genre, et alors toi, t'aimes bien jouer ouais. à la poupée. Enfin, tu vois, c'est pas. Ça me fait quand même peur, hein. Je suis pas en train de dire que j'ai pas peur, hein, mais...
T'es en train d'essayer de faire la courageuse, là, comme ça.
J'essaye de faire j'ai la pas meuf, peur. Ouais.
J'ai pas peur de ouf, tu sais.
Non, non, ouais, c'est bien, c'est bien.
Ouais, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Je sais pas, j'aime trop l'ambiance, les acteurs sont cool. Voilà.
Ouais.
C'est ce qu'il me fallait en ces petites semaines qui mènent à Halloween. Ces petits jours qui mènent à Halloween, c'est une bonne chose
cette
à
période
regarder,
de couvre-feu.
Cette période de couvre-feu où on est enfermé chez nous et en fait, on peut pas fuir. On peut pas fuir si il se passe quelque chose de,
ouais.
de surprenant. Moi, si Ryan Gosling il se met à vivre, tu vois.
Bah ça va, ça.
Oui, si Ryan Gosling tout d'un coup prend vie derrière moi, bon... Oups.
qu'est-ce que je voulais dire ? Dire un truc. Oui, ça me rassure de vivre dans un tout petit appart, enfin dans ouais. un studio, parce qu'un putain de manoir, mais ça fait tellement peur, parce qu'en fait, ça peut arriver de tous les côtés.
Non, mais imagine, t'as envie de pisser dans un manoir, comme ça,
ah, non,
la nuit.
Non, c'est pas possible, non, non, c'est pas possible. Moi, je ne me lève pas. Je m'achète un urinoir, et je repasse à l'époque moyenâgeuse. C'est
mais
pas
ouais,
possible.
Complètement.
Ce n'est ouais, pas possible. Ça me fait trop peur.
Quand elle va se faire le thé là, et qu'il y a la théière ouais. qui se met à siffler, j'étais là.
Ouais, mais allez, aussi, non, quelle idée en Angleterre d'avoir des théières là, enfin des bouilloires comme ça qui sifflent, quelle idée.
Ouais. Je trouve qu'ils cherchent un peu.
Ah, ils cherchent la
t'es
merde.
Là, genre, tu restes dans ton lit. Tu restes là, tu vois.
Et entre si tu fais du thé, tu mets dans une casserole et tu surveilles que l'eau boue, mais t'attends pas qu'il y ait un sifflet qui réveille tout le manoir.
Tu vas pas dehors comme ça tout d'un
non,
coup.
Non, mais en plus,
genre, oh, tiens,
ah là là,
qu'est-ce qui se passe?
J'ai tellement envie de dire des trucs que t'as pas encore vu.
Non, bon. Non, non. Non, on arrête.
On arrête d'en parler.
On arrête d'en parler.
Par ouais. contre, moi, c'était ma seule recommandation culturelle de cette semaine. Hein.
Eh ben, c'est déjà pas mal.
Parce que sinon, c'est tout. Et toi, t'as des okay. trucs à dire?
Ouais. Ah. Moi, j'ai deux recommandations.
Ok.
J'en ai une. Alors, dans le thème un petit peu d'Halloween, en fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais pas encore, mais j'ai enfin testé le jeu L'Auberge Sanglante.
Ah, ok.
Donc voilà, on en avait parlé parce que j'ai fait L'Auberge Sanglante, la vraie histoire, la vraie fausse ouais. histoire. Et donc j'ai joué au jeu de société, et ben écoute, c'est super bien.
C'est vrai ?
C'est vraiment cool. Les cartes sont très belles, c'est très bien fait. Okay. Et en fait, ouais, le principe c'est que tu joues un détrousseur. Et donc, il y a chaque tour, il y a des personnages qui viennent dans ton auberge. Donc, okay. tu peux avoir genre des flics, mais tu peux aussi avoir des prêtres, des machins, bon, plein de gens. Okay. Et ton but, c'est de soit corrompre les gens et qu'ils soient avec toi, soit de les buter. Mais ensuite, il faut que tu trouves comment les enterrer et tout. Donc, il faut que tu aies de la place, il faut que machin, un truc. Il faut que tu les enterres avant que les flics te voient. Enfin, bref, c'est très bien.
Ok, on y jouera.
Je conseille. On y jouera, ouais, quand tu vas venir.
Ouais.
Pas de problème. Cool. Donc, ça, c'était ma première recommandation. Et ma deuxième recommandation, c'est encore un documentaire de la même personne comme la semaine dernière. Donc c'était David, bon, j'ai pas noté le nom, mais c'est la même personne. Il est passé sur Arte aussi, c'est le documentaire. Ah non, c'était sur France 2 la dernière fois, je me perds, les chèvres moi aussi, comme les religieuses. C'est un documentaire sur le Ku Klux Klan, qui est donc sur Arte plus 7, et donc il retrace l'histoire du Ku Klux Klan. C'est vraiment bien, c'est effroyable, ça fait peur. Parce que
moi ça me fait plus peur que les fantômes.
Ah ouais, oui mais clairement. Et il y a un peu un lien, tu vois, entre le Ku Klux Klan et les fantômes, parce que
ils sont tout blancs,
la para, quoi. Ouais, voilà, ouais, ils ressemblent à des fantômes. Et en même temps, tu vois, je regardais le documentaire et je me disais bon, mais ça fait flipper un peu leur tenue. Et en même temps, c'est complètement ridicule, c'est à dire que c'est des hommes adultes qui se déguisent. T'es là genre, vous êtes vraiment des merdes de A à Z. Voilà.
Ouais.
Donc, mais très intéressant. Et ça explique un petit peu aussi. En fait, ça fait le lien avec aujourd'hui, parce que le Ku Klux Klan, il existe encore. Voilà. Donc, c'est ce que je recommande.
T'as le nom du réal ?
C'est David. C'est le même réalisateur que le.
Mais tu l'as pas dit la dernière fois.
Sur la décolonisation. Ah bon ?
Tu l'as pas dit, je crois, la dernière fois.
Il me semblait que je l'avais dit, mais c'est possible que je l'ai pas dit. Donc le documentaire s'appelle Ku Klux Klan, une histoire américaine, et il est réalisé. Est-ce que ça va être écrit quelque part ? David Kornbrosa. Et c'est très récent, hein,
David...
c'est un documentaire. Kornbrosa. Brzoza. Ça a été réalisé là en 2020, quoi.
Ok.
Voilà.
Eh ben, super.
Eh ben, ouais.
Merci.
Est-ce qu'on est prêt pour Halloween, là ?
Qu'est-ce que tu vas faire à Halloween ?
Eh ben, je vais te voir, Halloween !
Ouais.
On va se voir en vrai ?
Ouais.
Tu vas venir passer un petit week-end d'Halloween ici. Parce que, alors, jour de la publication, c'est ton anniversaire.
Ouais, c'est vrai.
Donc,
mais c'est pas pour ça que je viens. Hein.
Oui, non, mais c'est ton anniversaire. Donc on va fêter ton anniversaire et Halloween.
Yes.
Et voilà, ça va être cool. J'ai vu qu'il y avait un escape game de maison hantée dans un vieux cinéma à Toulouse. Est-ce que ça te tente ?
Mais grave !
Je te propose des trucs comme ça, genre cache-pistache.
Ça te tente qu'on va ça ? Devant tout le monde, enfin devant les gens qui nous écoutent.
Et si tu veux, on peut manger des trucs. On verra ça plus tard.
Ouais.
Mais ouais,
mais
pour chaud, Halloween, grave. On va faire ça.
Ok, cool.
Trop bien.
Trop bien.
Okay. Et du coup, j'allais dire, et toi, tu vas faire quoi pour Halloween ?
Bah, moi, je vais te voir.
Ouais.
On risque de faire un escape game dans une maison hantée à Toulouse.
Ouais, ça serait cool. Ça s'appelle le cinéma de Dante. Je sais pas trop ce que
trop
ça vaut.
Bien.
Mais j'ai vu à l'entrée, parce que c'est déjà ouvert maintenant, mais j'ai vu à l'entrée, il y a une... Tu sais, comme dans les cinémas américains, la personne à l'entrée, genre, elle est en rouge,
là,
en petite tenue rouge.
Ah non. Ah oui, d'accord. Le portier.
Le usher, là, ouais, le portier, voilà. Et donc du coup c'est un portier mais zombie, voilà.
Ah bah tu vas kiffer.
C'est stylé. Ouais, je pense que je vais flipper de ouf.
Ah trop bien, je crois que j'ai jamais fait d'escape game horreur.
Ouais, l'année dernière jamais... l'année dernière on avait fait, mais si.
Mais c'était pas un truc horreur, on était censé être ivre dans un...
Mais on était enfermé dans un cachot quand même.
Et y avait... Ouais, mais ça fait pas peur. Y a pas des zombies et des tueurs.
Ouais, et d'ailleurs, moi, j'avais complètement triché en passant entre les barreaux pour aller chercher la clé. La meuf a dit, bah non, en fait, vous avez pas le droit de faire ça.
Tu la reposes et tu retournes derrière tes caisses et barreaux.
Tu retournes derrière les barreaux. Bon, bah, j'ai tenté.
T'as tenté. Non, mais plus sain pour l'audace, mais quelle indignité. Moi, je les entends.
C'est
clair. J'ai vu de Sarko.
Donc ouais. Moi j'en ai fait deux. Du coup j'ai fait celui de l'année dernière. J'en avais fait un l'année d'avant où en fait on était poursuivis par un tueur qui, on était accrochés avec des menottes et tout, on avait complètement perdu, parce qu'on avait perdu nos moyens, tout simplement. Encore une fois, j'avais fait n'importe quoi, encore une fois, à un moment, j'avais une clé, et il y avait une fente, et je me suis dit, genre, bon, je vais mettre la clé dans la fente, et en fait, j'ai fait tomber la clé dans le trou, et voilà.
Décris ma tête.
Et elle est cachée derrière ses mains, genre, vraiment atterrée. Et en fait, j'étais rentrée la première dans la pièce, et donc j'ai mis la clé dedans. Et
mais quelle
j'ai fait
bouffonne.
Cette merde. Ah ouais, bouffonne complet. Et je l'ai
mais
pas dit.
Alors, attends, il va falloir. Tu l'as pas dit, c'est la meilleure. Du coup, ça veut dire que quand on va faire un escape game, il faudra te surveiller bien plus que les zombies.
Voir que je fasse pas n'importe quoi. Non, mais en fait, voilà, j'ai mis le truc dedans parce que je me suis. Et ils avaient fait exprès. Parce que la clé était juste à côté de la fente. Et ils
non.
avaient fait exprès, je pense.
Est-ce que t'as demandé si t'étais la seule à avoir fait ça ou pas?
Non. Mais okay. Je pense, franchement, je pense. Et en fait, j'ai mis
mais
le truc.
Mais qui met une clé dans une fente con.
Mais c'était de la forme de la clé.
Ah bon, d'accord, ok.
Du coup,
non, mais
vois,
d'accord,
genre,
c'était comme un verrou.
Non, en fait, la clé, c'était une carte, genre comme. J'explique mal. C'était comme une carte, c'est dans un hôtel.
Ah oui, d'accord. Fait...
Bon, ben, du coup, j'ai pris le truc et je l'ai foutu dans le. Dans
d'accord.
La fente, quoi. Okay. Je l'ai perdu dans la boîte. Et en fait, j'aurais pas dû. Voilà.
Ça a,
voilà.
Ça a détruit
j'ai rien
tout.
Dit. Non, on a réussi quand même.
Ah bon. Rassure-moi, est-ce que le Game Master s'est foutu de ta gueule devant tout le monde?
Bah, je pense, mais clairement, c'était un
piège. Ah non, il l'a pas dit. En sortant, il vous a pas dit, bon, alors, il y a Mademoiselle qui a, qui
mais
a perdu
je l'ai dit,
la clé.
À la sortie, je l'ai dit, j'ai fait, je l'ai pas dit, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi.
Bon, bon, bon,
mais
bah, je sais pas si je vais faire un escape game. Hein.
Mais si. Mais dans ces moments-là, tu veux pas perdre la face, tu vois. Tu veux faire croire que t'es la plus logique
que
et
tu
la
gères.
Plus stylée du truc. Mm. Alors qu'en fait, tu gères que dalle et à l'intérieur, c'est la panique.
Moi, ce qui voilà. m'énerve quand je fais des escape games, c'est que personne ne m'écoute. À chaque fois,
ouais,
je suis là,
faut...
Hé, les gars, regardez ce que j'ai fait,
genre, et tout le monde est là
monde...
en train de faire son truc.
Mais les gens, ils s'en battent les flambis, mais complet de ce que je fais, ça m'énerve.
Bah écoute, je jure sur l'honneur que j'écouterai ce que tu diras pendant
okay.
l'escape game qu'on va faire.
Il y a des témoins, et moi je jure que je surveillerai tes faits et gestes.
je vais rien
si
faire.
Si je te vois démonter le décor, je te dirai non, c'est pas par là.
Arrête de passer là, n'importe quoi, tu vois bien que c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais, merci. Merci de me contenir, parce que je suis un peu... Tu vois, moi, c'est la vie de gangster, quoi.
Bah oui, je comprends.
J'y ai un
bah...
peu en dehors des normes. Moi, les
ouais.
règles, je les suis pas.
C'est
une hors
la loi.
Très... Ouais,
okay.
voilà. Donc, c'est ma vie, c'est mon lot.
Je comprends. Et je respecte. Très bien.
On se dit au revoir. Est-ce que t'as... Tiens, on a trouvé une transition... Ah, on a trouvé des liens entre nos deux histoires.
Oui.
Ouais. Mis à part Louis XIV. Trop simple, ça. Tu l'en trouvais d'autres.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, c'est deux histoires complètement inventées. Non, attends.
Clairement.
Non, c'est pas ça que je vais dire. Qu'est-ce que ça pourrait être le lien entre nos deux histoires? Toi, t'as une idée?
Ben non,
t'as fait un lien
XIV.
À part Louis XIV, je vois pas. Non.
Non, il y a Louis XIV, il y a l'idée de d'une force
oui.
surnaturelle qui soudain
qui...
nous prend.
Qui... Ouais, et qui gère le destin des gens, mais ça, moi, j'y crois
alors,
tellement.
Alors,
pas.
J'ai peut-être un lien. Attention,
okay.
c'est parti loin.
C'est tiré
mais...
par les cheveux.
Tu vois, est-ce que tu penses pas que derrière toute cette histoire de diamant, c'est pas plutôt une critique de la matérialité? Et donc, suis-moi, une critique en fait de toutes ces personnes qui veulent ce diamant et qui veulent la richesse et qui finalement se retrouvent comme des merdes. Et ben, tu vois derrière les religieuses qui elles n'en sont pas dans la recherche de
ouais, de fortune.
De la fortune, il y a peut-être ça, tu vois. Est-ce que les religieuses ne sont pas le diamant bleu?
Tu vas tellement loin. Non.
Je l'ai tenté.
C'est bien. C'est bien. T'as raison. Et à la fin, les religieuses, elles ont de l'argent, hein.
Ouais.
Alors vrai. Qu'elles ont menti. Merde.
Oui, mais du coup, est-ce qu'elles vont pas aller en enfer?
Voilà.
Moi, je dis ça, je jette un pavé dans la mare, mais...
peut-être qu'elles sont allées en enfer, ouais.
Voilà. Donc, est-ce que nos deux histoires, finalement, c'est pas deux critiques du capitalisme? Et est-ce que le capitalisme, ce n'est pas finalement la grande histoire d'horreur de notre siècle,
hein? Bah, peut-être, oui, c'est ça, le diable.
Est-ce que c'est pas
le diable est un capitaliste?
Exactement.
Sans doute.
Ou le capitalisme et le
Trump
diable.
Ouais.
Voilà. Voilà, c'est devenu un podcast politique.
C'est allé si vite.
Ça.
Ouais, bah ouais. Bah, bah moi, voilà. je pense que oui, ce sera le lien qu'on fera entre nos deux histoires.
Exactement.
Ouais.
Et si je puis me permettre, l'eau chaude n'oublie pas qu'un jour elle a été froide. Ça, c'est ma rubrique proverbe.
Oui, c'est vrai.
Okay. Je l'ai trouvé tout à l'heure. J'ai trouvé ce proverbe tout à l'heure.
Mais c'est un vrai proverbe ou tu l'as inventé?
Ouais. Non, c'est un vrai proverbe. L'eau chaude n'oublie pas qu'elle a un jour été froide.
Et qui dit ça et dans quel contexte?
À méditer. Yo, j'ai pas cherché aussi loin. J'ai tapé top 15 des proverbes. Et c'est le premier qui est tombé. Alors apparemment, c'est un proverbe africain, mais je peux pas aller plus loin. Vraiment.
Ok. Je pensais que tu faisais une référence avec la bouilloire qui siffle des Anglais. C'est l'eau chaude, avant elle a été froide.
C'est
et le sifflet, avant de siffler, il faisait pas de bruit.
Ouais, t'as raison.
Ouais. Bon, ok.
À méditer.
Où est-ce qu'on peut nous trouver, Claire?
Eh bien, c'est marrant que tu demandes, Agathe. Mais... On peut nous trouver. Ouh, merde. Fait tomber la chauve-souris de Ryan Gosling. On peut nous trouver sur Instagram, on peut nous trouver sur Twitter, on peut nous trouver sur Facebook, toujours à de la Cribzone. On peut nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute possibles et inimaginables.
Absolument.
On peut s'abonner. On peut
Abonnez-vous.
Nous laisser des commentaires, nous laisser des étoiles, juste venir nous dire ce qu'on en pense aussi, c'est sympa.
Ouais.
Et
voilà.
Et voilà, dites-nous comment s'est passé votre Halloween.
Est-ce que vous avez des histoires qui font peur à nous raconter?
Grave.
Et des voilà. Voilà, des trucs. Hein.
Voilà.
Et voilà, et on se dit à dans 2 semaines.
Ouais, on vous souhaite un effroyable Halloween.
Mm.
Et puis Agathe, on te souhaite un bon anniversaire, mais...
Merci.
T'écouteras ça le jour de ton anniversaire.
Merci. Ah, voilà. Écoute. Ouais.
Bouge tes oreilles maintenant et voilà.
Merci. Et salut.
Adieu.
À ciao, bon dimanche.
Oh non.
Ciao. Bisous.
Ciao.
Mirabile dicto, n'ai-je pas raison?
Tu parles latin?
Ago te absolvo.
Quod nomen mi est?
Buongiorno.
Quod nomen mi est?
My terror is rich.